6h, 8h.
Matin première.
Medical Fat.
Bienvenue dans le parti pris du journaliste Alain Gerlache, féru de politique bien sûr, et puis du professeur à Sciences Po Paris et chercheur au FNRS à Liège, François Gemène. Bonjour François.
Bonjour, bonjour Mehdi.
Je parle politique bien sûr, de la politique pour démarrer avant les élections du 26 mai. C'est une véritable opération chasseur de tête dans les partis.
Le MR n'est pas venu à moi, c'est l'inverse. C'est moi qui suis allé vers le mouvement réformateur. L'élément numéro un pour lequel le mouvement réformateur a accepté ma démarche et a accepté mon invitation, c'est la notoriété. Parce que le but d'une élection, on ne tourne pas autour du pot, c'est de faire des voix.
La star d'RTL, Michel Demacte, qui quitte le groupe de télévision pour aller au mouvement réformateur. Delphine Chabert, qui quitte la Ligue des Familles pour le PS. Claude Moniquet, qui rejoint Alain de Stex. Ou encore le philosophe François de Smet, qui va chez des filles. Ça ne s'arrête pas. Alors, Alain Gerlache, ça sert à quoi ces candidats de la société civile ?
Bah écoutez, la question, elle est un peu soupçonneuse. Et c'est vrai qu'il y a sans doute un certain nombre d'arrière-pensées, mais on ne peut pas reprocher aux partis politiques de rester en vase clos et en même temps leur reprocher de s'ouvrir à des candidats venus de ce qu'on appelle la société civile. Alors évidemment, la question, c'est de savoir à qui on s'ouvre. Est-ce que ce sont des candidats qui sont amenés en fonction de leurs compétences sur le fond, à cause de leur expérience personnelle, ou bien ceux qui font des voix à cause de leur notoriété? En réalité, tous les partis ont eu recours à ces deux types de candidats extérieurs. À une certaine époque, on a même eu des parents des victimes de Marc Dutroux sur les listes électorales, alors à cause de leur expérience en matière de justice, sans doute, à cause aussi de leur impact électoral, on ne doit même pas poser la question. Ce qu'il faut quand même constater, c'est que ça se termine souvent mal, parce que le monde politique a ses codes, ses lois, etc. C'est un milieu extrêmement dur, où il faut avoir des réseaux, et c'est très difficile, quand on débarque isolé, de s'insérer dans un parti sans réseau, de le construire par le haut, alors que souvent, l'arrivée a fait un certain nombre d'envieux, de frustrés peut-être aussi. Pour les journalistes, c'est sans doute encore plus difficile. Un bon journaliste, c'est celui qui doute, qui cherche la vérité. Et tenir un discours comme ça, défendant un parti à longueur de temps, comme s'il avait raison sur tout le temps, intellectuellement, c'est quand même extrêmement épuisant, je trouve.
François Gemène, votre point de vue là-dessus ?
Mais il est certain que ça présente un risque si ces candidats d'ouverture sont simplement des attrape-voix pour quelque part leurrer l'électeur, et Alain a raison de rappeler que ça se passe parfois mal. Néanmoins, moi je pense que ces candidats sont une excellente nouvelle pour la démocratie, pour deux raisons. D'abord parce qu'on se plaint souvent du faible niveau intellectuel des débats dans les parlements, et qu'il faut bien reconnaître que les personnalités qui ont été recrutées jusqu'ici, dans leur majorité, sont quand même des personnalités de calibre, de très grande qualité, qu'il s'agisse de François de Smet chez Défi, de Delphine Chabert au PS, ou d'Olivier de Schutter, que vous recevrez tout à l'heure chez Écolo. Et donc, ces personnalités, si elles sont élues, devraient quand même contribuer à relever le niveau des débats. Et donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Et puis, je pense que ça permet aussi de redonner son sens à l'engagement politique. On se plaint souvent, et j'ai été un de ceux-là, de ce que les carrières politiques sont devenues au fond des sortes de carrières, et que le principal but des personnalités politiques soit de se faire réélire à chaque élection. Ici, on a des candidats qui ont une autre carrière avant la politique et qui vont prendre un risque professionnel en se présentant aux élections. On n'imagine pas Michel Demacte revenir après les élections présenter le journal d'RTL TV, par
exemple. Il a démissionné, hein.
Il a démissionné. Démission, hein. Donc c'est un risque professionnel qu'ils prennent, et je trouve que ça redonne du sens à l'engagement politique et que ça brise précisément cette logique de carrière politique qui fait tant de mal à nos démocraties.
D'accord, à condition que les partis jouent le jeu après les élections. Et c'est souvent là que ça pose problème. C'est que les partis sont intéressés à ceux qui contribuent aussi, pas seulement au suffrage, mais à leur image, hein. Même si quelqu'un d'inconnu arrive sur un parti, sur une liste de partis avec son bagage intellectuel, son expérience professionnelle, ça contribue à l'image du parti. Mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Est-ce qu'on le rejette uniquement dès qu'il a servi ? C'est là la bonne question.
Est-ce qu'il y a des bons exemples, hein ?
Est-ce qu'il contribue à renouveler aussi les partis ? Je pense que ça fait partie de tout ce qu'on doit faire pour essayer de régénérer un peu la vie politique. Il y a ça, mais il y a aussi évidemment la participation citoyenne. Il y a sans doute aussi la limitation dans le temps du nombre de mandats successifs. Mais on a vu par exemple comment dans certains partis qui voulaient limiter le nombre de mandats successifs, finalement la règle, eh bien, c'est devenu l'exception.
Je pense qu'un enjeu fondamental pour briser cette logique de carrière politique, c'est aussi la question du mode de rémunération des parlementaires et du personnel politique. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce que la rémunération des parlementaires continue à leur être versée par leur ancien employeur, qui recevrait bien entendu une contrepartie équivalente de la part de l'État, de manière à ce que, quelque part, les gens n'aillent pas là pour avoir un métier, mais qu'ils gardent la rémunération de leur ancien métier, qu'ils puissent récupérer une fois sortis de leur charge parlementaire.
Tiens, vous n'avez pas cité Claude Moniquet.
Disons que j'ai plus de réserves sur la qualité de la personne.
Bon, allez, on poursuit avec un deuxième débat qui nous emmène au Royaume-Uni.
Les options sur la table sont les mêmes qu'auparavant. Nous pourrions partir avec l'accord négocié par notre gouvernement au cours des deux dernières années. Nous pourrions soumettre l'accord que nous avons négocié à un deuxième référendum, mais le risque existe alors qu'il n'y ait pas de Brexit du tout.
Voilà, les parlementaires ont refusé un nouveau référendum. La voix cassée de Theresa May est à l'image de tous les efforts qu'elle met pour aboutir à un Brexit négocié. Alors, moi, je me mets à la place de tout le monde, des citoyens. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à comprendre à ce Brexit ?
Oui, je crois que c'est possible de comprendre si on garde en tête le fait que les deux principaux protagonistes de la politique britannique, Theresa May pour le Parti conservateur, Jeremy Corbyn pour le Parti travailliste, défendent en réalité des positions qui sont opposées à leurs convictions personnelles. Il faut se souvenir que Theresa May était favorable au maintien dans l'Union européenne et donc est obligée aujourd'hui de gérer le Brexit, tandis que Jeremy Corbyn, son adversaire politique, était lui favorable à la sortie de l'Union européenne. C'est un Brexiteur qui, quelque part, est aujourd'hui l'opposant de Theresa May. Et donc, ça crée une schizophrénie pas possible, puisque tous les deux sont obligés de défendre des positions qui sont contraires à leurs convictions personnelles. Et il faut bien dire que les rangs responsables de cette histoire, ce sont les tristes sires qui ont orchestré la campagne du Brexit avec des arguments mensongers, les David Cameron, les Boris Johnson, les Nigel Farage, qui aujourd'hui ont complètement déserté en rase campagne et laissent quelque part les Britanniques à leur sort. Et donc ma prédiction en fait, c'est tout simplement qu'il n'y aura pas de Brexit et que ça ne se produira jamais. Parce que plus nous attendons, plus le soutien des électeurs britanniques à la sortie de l'Union européenne diminue. Et donc, si le Brexit est reporté de 3 mois ou de 6 mois, on peut imaginer que le niveau de soutien dans l'électorat pour le Brexit tombe sous le tiers, sous les 33%. Aujourd'hui, il y a déjà moins de 4 électeurs sur 10 qui sont favorables à la sortie de l'Union européenne. Et la question que devra alors se poser le gouvernement, que ce soit celui de Theresa May ou d'un autre, c'est: est-ce qu'on va vraiment prendre une décision à ce point capitale pour l'avenir du pays, alors qu'elle n'est plus soutenue que par un tiers de la population ?
Voilà, pas de Brexit pour François Gemène. Vous êtes amoureux hein, du Royaume-Uni, Alain Gerlache. Quelle est votre position ?
Oui, mais l'amour n'exclut pas la lucidité. c'est vrai que c'est compliqué, mais enfin, on peut quand même revenir à un certain nombre de choses simples et basiques. Ce référendum a été imaginé parce que le Parti conservateur était profondément divisé sur l'Europe et qu'en plus, il subissait la concurrence du parti europhobe UKIP. Ça, c'est simple. Et comme personne n'avait anticipé le non, eh bien, personne n'a pu imaginer comment on allait sortir de l'Europe de façon négociée. Ça, c'est basique. Ce qui n'arrange rien non plus, c'est évidemment que les deux parties sont d'accord sur une seule chose, c'est qu'il ne faut absolument rien céder à l'autre. Ils sont incapables de se mettre d'accord sur une solution négociée. Et donc, ils cherchent maintenant désespérément à pouvoir s'en sortir. Mais c'est encore plus compliqué que vous n'imaginez, puisque le report qui a été voté hier, Theresa May n'a obtenu ce report que parce que des travaillistes ont voté pour elle, alors que certains ministres votaient contre. Bref,